parisienne. Il est midi.
Et vous écoutez France Bleu Paris, comme vous avez raison. Nous sommes le lundi 10 juin. France Bleu Paris. Et l'info de ce lundi de Pentecôte en Ile-de-France, c'est avec vous, Nathalie Domenego. Bonjour.
Bonjour à tous.
Les personnels soignants des urgences de Saint-Antoine à Paris ont atteint un point de non-retour.
Ils n'en peuvent tellement plus que eux aussi se sont mis en arrêt maladie. Une méthode vivement critiquée par la ministre de la Santé. Nous entendrons ce que lui répond une infirmière arrêtée, justement. C'est la Pentecôte, vous travaillez, vous êtes en congé, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Où va l'argent de votre salaire? On fait le point et on y verra plus clair avec les explications de Johanna Yakin. Le bac, première épreuve lundi prochain, peut-on l'avoir en commençant les révisions seulement maintenant? Certains élèves y croient et même certains spécialistes conseillers en révision. L'archevêque de Paris voulait célébrer une messe au plus vite dans Notre-Dame, quitte à porter un casque de chantier, eh bien il sera exaucé ce week-end.
À Paris, après les soignants des urgences de l'hôpital Lariboisière, il y a une semaine, ce sont ceux de l'hôpital Saint-Antoine qui se sont mis en arrêt maladie ce week-end.
Une vingtaine d'infirmiers et aides-soignants pour faire entendre leur épuisement à la ministre de la Santé. Mais Agnès Buzyn n'apprécie pas du tout ces méthodes. C'est dévoyer le principe d'arrêt maladie, dit-elle. Linda, infirmière depuis 12 ans à Saint-Antoine, fait partie de ceux qui ont été arrêtés. Et voici ce qu'elle répond à la ministre.
Elle est très très mal placée pour dire ce genre de choses. Un arrêt maladie, ça ne se décide pas et ça s'impose. On ne peut pas aller soigner les gens si nous-mêmes nous ne sommes pas bien. C'est le béaba. Je ne me sens pas capable d'aller soigner un patient. Moi-même, je ne suis pas bien. C'est une porte ouverte aux fautes professionnelles et à être encore plus dans un mal-être qui est déjà bien installé depuis des années. On tire la sonnette d'alarme depuis assez longtemps pour qu'elle les sache. Mais là, en fait, on a l'impression d'être abandonné de tous. Il y a un petit point de non-retour qui a été atteint et c'est pour ça que j'ai dû me mettre en arrêt.
Et demain, une nouvelle journée de mobilisation nationale des urgences est prévue alors que ces services sont déjà en grève officiellement depuis le mois de mars.
Nous sommes lundi de Pentecôte, c'est férié, mais peut-être que vous travaillez.
C'est la fameuse journée de solidarité, une journée de travail gratuite, bénévole en quelque sorte, pour financer l'autonomie des personnes âgées. La loi a 15 ans, aujourd'hui elle a évolué et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, hein, Johanna Yakin.
Oui, ça a changé, les employeurs ont le choix maintenant depuis une dizaine d'années à peu près. Première possibilité, en effet, vous pouvez travailler le lundi de Pentecôte, mais vous n'êtes pas payé. Deuxième possibilité, votre employeur peut vous autoriser à poser une RTT ou un jour de congé sur cette journée normalement fériée. Autre option, l'employeur peut décider de vous faire travailler n'importe quel autre jour habituellement chômé. Il peut s'agir par exemple de tout autre jour férié, excepté le 1er mai et les dimanches. Alors dans les faits, la plupart des salariés choisissent de poser une RTT ou un jour de congé le jour de la Pentecôte. Mais quoi qu'il arrive, impossible d'échapper à cette journée, elle est obligatoire. Vous n'êtes pas payé, mais votre employeur, lui, reverse une contribution à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 0,3% de la masse salariale. Au total, en 2019, on estime que cette journée de solidarité va rapporter près de 3 milliards d'euros.
Et puis à l'occasion de cette journée, nous avons invité ce matin Romain Guizolme. Il dirige l'association des directeurs des établissements pour les personnes âgées, ainsi que les organismes d'aide à domicile. Il a déclaré notamment qu'un aidant sur trois décédait avant la personne malade. Son interview est à réécouter sur francebleu.fr. Et puis on l'apprend à l'instant, l'automobiliste soupçonné d'avoir fauché deux enfants hier en fin d'après-midi à Lorient, tuant l'un d'eux. Il a été identifié, il s'agit d'un jeune âgé d'une vingtaine d'années, connu pour plusieurs problèmes de conduite. Il était sans permis. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce qui va se passer lundi prochain?
Lundi prochain, c'est la date de départ pour le baccalauréat.
Exactement. Vous avez de mauvais souvenirs. Oui. Dernière semaine de révision. Pour certains, les plus décontractés, s'ils ne s'y mettent que maintenant, est-ce que c'est jouable? Laetitia Evelyne, vous leur avez posé la question à la sortie du lycée Roger Verlhomme dans le 15e arrondissement de Paris.
Il y a ceux qui s'organisent, fiche planning surligneur en main, et puis il y a Alicia.
Pas réviser, le bac je vais y aller au talent.
Alors cette semaine, pas de surmenage en vue.
Je vais réviser, je vais feuilleter mes livres, mais c'est tout, sinon rien.
Rien du tout et beaucoup de confiance.
Je pense que je vais l'avoir avec mention.
À ses côtés, son ami Raphaël, lui aussi en terminale STMG, sciences et technologies du management et de la gestion. Il ne croit pas aux révisions du dernier moment, même s'il avoue que ça dépend des filières.
Au niveau des filières scientifiques, c'est beaucoup de techniques. On ne peut pas apprendre ça d'un coup, c'est l'entraînement. Alors que par exemple au STMG, c'est beaucoup plus de cours écrits. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus simple de relire en dernière semaine.
Raphaël qui est lui très organisé.
Je classe mes matières, je fais en sorte à être ordonné. et pouvoir avoir tout classé dans ma tête.
Et pour Brahim, qui est prof de gestion, c'est beaucoup trop risqué de ne s'y mettre que maintenant.
On peut tomber sur un premier chapitre qui a été vu premier trimestre. C'est difficile pour ceux qui ne se sont pas mis au travail des débuts de rattraper en une semaine ou en deux semaines.
Et si ça ne marche pas, il reste toujours la possibilité de blâmer les autres.
Si je ne l'ai pas... Je dirais que c'est de votre faute.
Peut-on sauver son bac en une semaine? C'est la question que nous avons posée aussi ce matin à Julie Mieschko, c'est la rédactrice en chef de Studirama.
C'est pas quelque chose qu'il faut dire quand même, parce qu'il faut pas encourager les prochains à faire ça, mais oui, on a déjà vu des gens bachoter au dernier moment et réussir leur bac, oui, on en voit tous les ans. Il s'agit finalement de tout miser sur les épreuves, bien qui rapportent beaucoup, hein, qui ont des coefficients élevés, tout ce qui va vous rapporter beaucoup de points et sur lesquels vous ne pouvez pas faire d'impasse et vous devez absolument marquer des points.
Julie Mieschko, la rédactrice en chef de Studirama, site spécialisé sur la formation et l'orientation des jeunes. Elle était invitée ce matin de France Bleu Paris à 7h15 et elle répondait à Mélodie.
Il est midi 6 et vous écoutez France Bleu Paris. Deux mois après son incendie, le parvis de Notre-Dame pourrait rouvrir en fin de semaine.
Le maire du 4e arrondissement l'a annoncé ce matin. Une cérémonie devrait même avoir lieu le week-end prochain au petit comité Delphine Evenou.
L'archevêque de Paris disait il y a un mois vouloir célébrer une messe au plus vite, quitte à mettre un casque de chantier. Il va donc être exaucé.
C'est une grande fête de l'espérance pour nous. C'est une façon de se dire la cathédrale nous attend.
Patrick Chauvet, recteur et archiprêtre de Notre-Dame.
Nous serons 6 ou 7 prêtres autour de l'archevêque et quelques personnes. Il faut tous que nous portions un casque. Nous irons dans la chapelle qui est au fond de la cathédrale, qui n'a pas été touchée par le feu. C'est la chapelle où il y avait la couronne d'épines.
Une seule messe d'une heure pour le symbole, mais un lieu de recueillement va lui être installé de façon durable sur le parvis de Notre-Dame. Pas de cathédrale éphémère en bois, le chantier prend finalement trop de place, mais une petite tente abritant une statue de la Vierge. Les prêtres s'y rendront d'ailleurs avant la messe du week-end pour marquer le coup. Si le parvis est ouvert, cela dépend de la dépollution du plomb. Ariel Veil, maire du 4e arrondissement, espère un feu vert jeudi ou vendredi.
La partie qui sera réouverte au public est la moitié du parvis, pour faire simple, entre la préfecture de police, voilà, et la cathédrale. Vous voyez là, il y a de la vie, il y a des touristes qui viennent. C'est important qu'il y ait des flux, c'est important que les gens puissent voir aussi ce qui se passe. Ce chantier exemplaire qui sera en lui-même une attraction et une vitrine des savoir-faire français.
Et une fois le parvis partiellement rouvert, le quartier de Notre-Dame ne changera plus de visage jusqu'à la fin de la reconstruction, dans 5 ans au moins.
Quant à la messe, on ne sait pas encore si elle aura lieu samedi ou dimanche, mais on vous le dira dès que nous le saurons.